Nous avons évoqué ce matin à plusieurs reprises la grâce de Dieu. Et je voudrais dire quelques passages d'abord dans l'épître aux Éphésiens. Premier chapitre, verset 7, la fin du verset 6. Sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce. La parole de Dieu nous parle des richesses de la grâce de Dieu. Et si nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé, c'est à cause de la grâce de Dieu. Une expression encore dans Tite. Chapitre 3, verset 4. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus en Christ, il nous sauva non sur le principe d'œuvres accomplies en justice que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération. Nous sommes sauvés par grâce, non pas sur le principe d'œuvre que nous eussions faite, mais selon la propre miséricorde de Dieu. Alors, verset maintenant dans le livre du Deutéronome. Une expression dans le chapitre 21. Au milieu du verset 4. Il nous est parlé d'une vallée où coule un torrent qui ne tarit pas, dans laquelle on ne travaille ni ne sème, et là, dans la vallée, ils briseront la nuque de la génisse. La vallée, c'est le monde. C'est le monde pour le chrétien. C'est une terre où il n'y a rien pour le croyant. Et nous voyons que c'est une terre qui est stérile, qui ne donne rien. Et c'est, là, il nous est dit qu'on n'y travaille pas, on ne sème pas. Et dans cette vallée, donc, dans une circonstance qui est décrite juste avant, il est parlé de briser la nuque de la génisse. Et nous voyons que il y a un lien qui est établi entre ce torrent qui coule, qui ne tarit jamais, et cette victime, cette génisse. La victime, bien sûr, typiquement, c'est Christ. Christ qui est venu sur cette terre et qui a été sacrifié. Et dans cette vallée, eh bien, il y a ce torrent qui ne tarit pas. C'est-à-dire que pour le croyant, pour les chrétiens, croyants, croyantes, eh bien, il y a toujours la grâce de Dieu qui nous accompagne dans ce monde. Et si nous marchons vers le ciel, comme on l'a exprimé dans le cantique, nous avons reçu un appel céleste. Nous avons été retirés donc de ce monde, de ce monde mauvais. Eh bien, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous allons lire maintenant un autre passage dans Ézéchiel, au chapitre 47. Verset premier. Et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient, et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison au midi de l'autel. Et il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient. Et voici des eaux coulées, qui coulaient du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main, et il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux genoux. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser, des eaux montant jusqu'aux reins. Et il mesura 1000 coudées. C'était une rivière que je ne pouvais traverser, car les eaux avaient cru, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Et il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière. Encore, on reviendra, Dieu voulant, sur ce passage, encore dans Zacharie. Chapitre 14, verset 8. Et il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver. Les eaux dont il nous est parlé dans Ézéchiel 47 et ici dans Zacharie au chapitre 14 verset 8 symbolisent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui coule. Ici dans Zacharie, il nous est dit été et hiver. C'est-à-dire ce sont des eaux qui coule continuellement. Ézéchiel, dans le chapitre 47, a une vision du temple, qui est décrite, cette vision, dans les chapitres précédents. Et au chapitre 47, il nous est parlé de ces eaux qui vont sortir quand le Seigneur va revenir au début du millénium, quand il va mettre les pieds sur la montagne, et ces eaux vont couler pendant ces 1000 ans. Et ces eaux symbolisent la grâce de Dieu. Et nous voyons que ces eaux, elles sortent de dessous du seuil de la maison et vers l'Orient. L'Orient d'en haut qui nous a visités. Nous nous souvenons de cette parole dans l'évangile de Luc. Hein, l'Orient d'en haut nous a visités. Cela évoque la venue du Seigneur Jésus sur cette terre. Et la grâce de Dieu qui est apparue dans la personne de Christ, eh bien, nous voyons que dans Ézéchiel, dans cette vision, le lien est établi entre l'Orient, le Midi, et ces eaux qui vont couler au-dessous du temple de Jérusalem. Et symboliquement, cela nous parle de ces eaux qui sont abondantes et qui viennent du sanctuaire de Dieu pour nous. Et nous voyons, quand nous lisons ces 5 premiers versets ou ces 6 premiers versets, que ces eaux sont des eaux qui sont pures. Il n'y a aucun affluent qui vienne des eaux qui viennent d'ailleurs et qui se mêlent à ces eaux pures de la grâce de Dieu. Et Ézéchiel est amené à contempler et à regarder ces eaux qui sortent du sanctuaire. Est-ce que nous avons conscience de ces eaux de la grâce qui coulent continuellement du sanctuaire de Dieu, du ciel, et qui s'occupent de nous journalièrement? Est-ce que nous avons les yeux tournés vers le ciel et avons-nous cette conscience que ces eaux sont pures et s'occupent de nous pour notre bien? Et nous voyons que Ézéchiel, donc, est amené à avancer dans ces eaux. Et il nous est dit au verset 3, que l'homme qui se tenait vers l'Orient, cet ange, avait un cordeau dans sa main, verset 3, et il mesure 1000 coudées et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Dans sa vision, Ézéchiel donc avance dans ces eaux et il entre dans ces eaux. Et nous voyons que ces eaux lui montaient jusqu'aux chevilles des pieds. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que pour notre marche, on l'a évoqué tout à l'heure dans le cantique et aussi dans la prière, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Les eaux qui montent jusqu'aux chevilles des pieds. Nous devons marcher dans le chemin étroit et nous voyons que si nous dévions de ce chemin étroit, eh bien il y a la grâce de Dieu qui nous ramène, qui nous rétablit et qui nous ramène dans ce chemin étroit. Et nous devons bien avoir conscience que Dieu s'occupe de nous, ce Dieu de toute grâce, journellement, afin que nous marchions toujours soigneusement dans son chemin. Mais si nous ne marchons pas dans son chemin, eh bien, il y aura toujours la grâce de Dieu pour nous ramener, si nous nous confions en lui. Les pieds, s'ils évoquent la marche, ils évoquent aussi la course chrétienne, notre cheminement spirituel. Pour comprendre, par exemple, ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu et qui sonde les choses profondes de Dieu, mais nous avons aussi besoin de toute la grâce de Dieu pour comprendre des vérités qui sont quelquefois difficiles à comprendre, difficiles à enseigner, des vérités aussi qui sont difficiles à expliquer. Et nous voyons que dans cette course chrétienne, dans notre cheminement spirituel, jusqu'à que nous entrions dans la maison du Père, eh bien, il y a toute la grâce de Dieu qui nous accompagne. Ézéchiel est amené maintenant à entrer un peu plus dans les eaux qui sortent du sanctuaire. Et donc, 1000 coudées sont ajoutées. Et nous voyons au verset 4 que les eaux montent jusqu'aux genoux. Les genoux, ce sont deux articulations qui sont importantes pour nous maintenir debout. Il faut que ces articulations soient solides pour être maintenues debout. Eh bien, la signification de ces eaux qui entrent jusqu'aux genoux, bien nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour nous tenir debout. Nous ne pouvons pas nous tenir avec nos propres forces. Nous n'avons aucune force en nous. Et dans la vie chrétienne, pour être tenus debout, eh bien, nous avons besoin de ces eaux pures de la grâce de Dieu qui vont nous maintenir debout. Ézéchiel est amené à avancer un petit peu plus loin de 1000 coudées. Et nous voyons à la fin du verset 4 que les eaux montaient jusqu'aux reins. Les reins nous parlent de l'être intérieur, du chrétien, de notre cœur, de tout ce qu'il y a de plus intime en nous, de nos pensées. Eh bien, pour que notre intérieur soit en ordre par rapport à ce que Dieu désire, un cœur entier pour Christ, un cœur qui soit pour le Seigneur, et les reins qui nous parlent aussi de toutes nos pensées tournées vers le Seigneur, vers le but qui est devant nous, courir cette course avec ce but devant de gagner Christ. N'avons-nous pas besoin aussi de toute la grâce de Dieu? Parce que nos pensées, notre cœur, souvent, eh bien, défaillissent. Et nos pensées sont souvent occupées tellement de choses terrestres, de choses peut-être qui ne conviennent pas. Eh bien, si nous sommes dans un tel état, eh bien, nous avons toute la grâce de Dieu qui est à notre disposition pour que notre intérieur soit prêt pour marcher d'une manière qui honore le Seigneur. Nous avons besoin de sentir que pour notre marche chrétienne, nous avons besoin de ces eaux pures jour après jour, que nous avons besoin pour la marche chrétienne, pour la course chrétienne, pour nous tenir debout, pour que notre être intérieur soit à la gloire du Seigneur Jésus, que nous soyons sanctifiés, consacrés à sa personne, que nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu.
peut admirer la permanence de certaines images, dont celle-là, dans la parole, qui n'est pas propre à ce passage d'Ézéchiel, mais que l'on retrouve ailleurs, comme si, évidemment, de la part de Dieu, il y avait cette insistance à vouloir nous faire comprendre qu'il y a cette grâce qui est là. Je voudrais juste lire deux, trois extraits, deux, trois passages en Ésaïe, au chapitre 35. Chapitre 35, au verset 1er. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le ciel stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment. Il sera dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, et il exultera. Au chapitre 41, au verset 17. Les affligés et les nécessiteux chercheront de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées. Je changerai le désert en un étang d'eau, et la terre aride en des sources jaillissantes. Je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia, et le myrte et l'olivia, etc. Il y a bien sûr cette image centrale du désert, hein, où rien ne pousse, où il n'y a pas d'eau, lieu de l'expérience, mais aussi dans ces passages centraux, où Dieu envisage, dans les passages centraux avec Ézéchiel et Ésaïe, où Dieu envisage une nouvelle alliance, on voit que cette image est dépassée. Et que Dieu renonce finalement à cette idée de désert et promet quelque chose de tout à fait différent, qui semble bien même meilleur que cette promesse du pays ruisselant de miel, de lait et de miel. Comme si cette promesse de quelque chose de futur était plus excellent encore. Et on voit là, bien sûr, l'idée de grâce même, c'est-à-dire dans le sens où là où il n'y avait plus rien de possible dans ce désert, où plus rien ne pouvait fructifier, eh bien Dieu agit de telle manière que tout redevient possible, et d'une telle manière que ça dépasse ce que l'homme à ce moment-là pouvait imaginer, et que l'homme ne pouvait pas attendre, ne pouvait pas espérer dans cet état-là. Donc on voit bien que cette image de l'eau, hein, est bien l'image de la grâce elle-même. En plus, dans le passage, alors ça a été dit, je voudrais juste insister là-dessus, dans le passage qui a été lu, c'est vrai qu'il y a cette idée de quelque chose qui dépasse la mesure. Hein. On a parlé ce matin dans ce cantique, cette grâce immense. Immense, c'est quelque chose qui ne se laisse plus mesurer. Alors cette eau qui sort bien sûr du sanctuaire, n'oublions pas là aussi, mais Ézéchiel rejoint Ésaïe, hein, la gloire a quitté le temple de Jérusalem dans le chapitre 10, mais on voit que malgré, à cause de l'état du peuple, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on voit que Dieu ne s'arrête pas, si vous voulez, à cet acte de justice, à cet acte qui met fin en quelque sorte à la première alliance ou à l'alliance que Dieu avait avec Israël à ce moment-là. Non, il y a quelque chose d'autre. C'est encore une fois un acte de grâce. Hein, quelque chose de plus excellent, si vous voulez, que Dieu a en réserve. Si à la fois Dieu parle de ses déserts, de ses jugements dans ses prophètes, il parle aussi en même temps de ses voies de salut. Hein, et on ne peut pas dissocier les deux choses. Et on le voit à travers ces images. Donc, encore une fois, cette idée de mesure, hein, il mesurera, voilà, quelque chose qui est au-delà de ce que l'homme peut percevoir, une abondance, hein, est-il dit aussi dans le Nouveau Testament, avec des conséquences. Hein, des conséquences. Par exemple, à la fin du verset 9, il est bien dit « tout vivra ». Tout vivra. Donc cette eau, c'est pas simplement, si vous voulez, de l'eau qui se déverse, mais c'est bien, comme dans Ésaïe, avec cette idée de faire refleurir, hein, de donner quelque chose un retour à la vie, en quelque sorte. Et juste rapidement aussi, pour revenir sur ce passage dans Zacharie, chapitre 12. Peut-être avant, au début du livre, oui, deux versets. Chapitre 1er, verset 16, c'est Dieu qui parle. « Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison y sera bâtie. » On est toujours, bien sûr, dans le futur, hein, ce que Dieu promet. Et à la fin du verset 17, « Ainsi dit l'Éternel des armées, mes villes regorgeront, encore une fois cette idée d'abondance, encore de biens, et l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. » Il y a cette insistance sur « encore hein, ». C'est-à-dire, malgré, si vous voulez, toute l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, Dieu persiste. Et il fera encore du bien, de telle manière que, justement, ces villes regorgeront. Et on retrouve après, au verset 2, cette idée qu'on avait dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 2, et je dis, « Où vas-tu ?» Il me dit, « Je vais pour mesurer Israël, pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » Et quelle est sa longueur, pardon. Expressions qui sont reprises encore une fois dans le Nouveau Testament, mais qui montrent bien là encore qu'on est dans quelque chose qui a la mesure de Dieu, hein, qui est à la mesure de Dieu et de l'action de Dieu. Et juste pour terminer, parce que ce qui est très est évident que quand Dieu parle de cette grâce, hein, quand il l'annonce, il ne peut pas dissocier cette annonce de la personne de Jésus-Christ. Hein. Et juste un verset qui va dans ce sens-là, c'est au chapitre 12 et au verset 10. Chapitre 12, verset 10. C'est Dieu qui parle, et je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui. Comme on se lamente sur un fils unique. Et au chapitre 13 et au verset 1er, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David. » Voilà. Bon, les choses sont annoncées, les choses sont claires. Il ne peut pas y avoir de source de grâce sans qu'il y ait en même temps l'annonce de la présence de son auteur, de celui qui rend cette source possible, Jésus-Christ, le Fils unique.
Juste m'arrêter sur une expression encore de ce chapitre d'Ézéchiel. Au verset 12, les versets précédents décrivent les bénédictions qu'apporte cette eau, l'abondance de poissons, et puis plus loin, il est parlé de ces arbres qui poussent le long de la rivière. Et le verset 12, juste presque à la fin, il est dit « Car ces eaux sortent du sanctuaire ». La source de cette bénédiction, la source de cette grâce, tourne toujours nos yeux vers le sanctuaire, le lieu de la présence de Dieu.